Bien, chers amis, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Daniel pour partager le contenu des 8 premiers versets. Daniel chapitre 1er, nous lisons les 8 premiers versets de cette introduction libre. Je lis au verset premier, la troisième année du règne de Joachim, roi de Juda. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Hanania, Michel et Azaria. Le chef des eunuques leur imposa des noms, à Daniel celui de Belshazzar, à Hanania celui de Shadrach, à Michel celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. Daniel, résolu de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il supplia le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Nous allons vers la fin de notre Bible, dans les tout derniers chapitres, Apocalypse, chapitre 18, Apocalypse chapitre 18, dont nous lisons les 8 premiers versets. Apocalypse 18, les 8 premiers versets. Je lis au verset premier, Apocalypse 18. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée, plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, je ne verrai point de deuil. » À cause de cela, en un même jour, ses fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugée. Je rappelle, comme je le faisais hier soir dans le préalable à cette série d'études, que nous développerons cette série non pas en 4 études, mais en 8 sur 2 week-ends, le second étant le premier week-end, Dieu voulant, de mars 1996, les premiers 2 et 3 mars, de manière à pouvoir prendre tout notre temps. Ça vaut la peine de ne pas toujours circuler dans les écritures en TGV sur des thèmes aussi importants. Et donc, nous allons avancer à un rythme qui, je le crois aussi pour chacun d'entre nous, sera plus supportable et qui nous permet d'aborder d'autres aspects tranquillement aussi. Deuxième remarque faite hier soir, que je répète ce soir, le thème c'est donc choisir Dieu dans un monde moderne, thème que nous étudions un petit peu à rebours, c'est-à-dire en commençant par la fin du titre. Nous nous penchons dans un premier temps sur un monde moderne à partir de l'ancien. Je vais y revenir. Ensuite, nous allons très rapidement venir à ce mot « Dieu », important lui aussi, puisqu'il est l'objet, le sujet aussi, en tant que personne, de notre choix, choisir, qui va beaucoup nous occuper alors dans le second week-end de mars 96. Enfin, nous avons souligné la nécessité hier soir de commencer par brosser une sorte de toile de fond indispensable à une bonne compréhension de l'attitude du jeune Daniel et de ses compagnons. Et nous avons donc hier soir passé pas mal de temps, 1h30 en réalité, à faire pas mal d'histoires, mais aussi de tourisme. Je ne sais pas si certains d'entre vous qui étiez là hier soir, vous avez rêvé de Babylone, de cette gigantesque cité. Je vais simplement, pour aider les amis qui nous rejoignent ce soir et dont certains font le relais de l'épouse, du conjoint, pour des questions de garde d'enfants, alors je voudrais qu'ils se sentent aussi ce soir très à l'aise et qu'ils puissent entrer pleinement avec nous tous qui étions là hier soir dans le vif du sujet assez rapidement. Alors je vous rappelle simplement que l'histoire de Daniel commence à une période cruciale, une période marquée de grands bouleversements internationaux, une sorte de redistribution des cartes en matière de géopolitique, comme on dit aujourd'hui. Nous avons vu hier soir que la puissance assyrienne, avec sa capitale, Ninive, la grande ville, vient d'aller dans son déclin définitif, avec la chute de Ninive indiquée sur ce tableau en 612 avant Jésus-Christ. L'empire égyptien lui aussi est sur son déclin. L'Égypte vient de subir une très sévère défaite, un point crucial dans l'histoire des nations, 605, Carchemish, précisément juste avant les événements qui introduisent le livre de Daniel dans les premiers versets du chapitre 1er. Nous avons vu que par contre, un nouvel empire monte progressivement à son zénith. En réalité, c'est un très vieil empire, une très vieille puissance, mais qui a subi ses vicissitudes, qui a été aussi aux mains d'étrangers, qui a été très brillant dans un très lointain passé, certainement du temps d'Abraham d'ailleurs, mais qui, depuis relativement peu de temps, l'empire néo-babylonien ou chaldéen est en train de prendre un essor tout à fait particulier. Depuis que le père de Nebuchadnezzar, Nabopolassar, est entré dans un règne qui durera une 20aine d'années, de 625 à 605 précisément. Encore une fois, cette date de 605 est très importante, donc avant Jésus-Christ. Et quand il meurt, ce père de Nebuchadnezzar, son fils, va inaugurer un des règnes les plus longs et les plus brillants de l'histoire antique, puisque Nebuchadnezzar va régner de 605 à 562 avant Jésus-Christ. Règne prestigieux, règne aussi cruel, règne de celui que les Écritures, sous la plume du prophète Ézéchiel, comme sous la plume de Daniel, appellent le roi des rois. Trois déportations vont se succéder, qui vont terriblement secouer, marquer Jérusalem, avant de l'anéantir. 605, première déportation, très limitée, essentiellement cette crème constituée de quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, dont Daniel, qui sont exilés. Il y aura une déportation beaucoup plus sévère en 597, avec un homme jeune, âgé de 25 ans, d'une famille de sacrificateurs, qui s'appelle Ézéchiel, qui va partir lui aussi et qui, 5 ans plus tard, en 592, va recevoir de la part de Dieu des visions toutes particulières qui vont introduire le livre de ce prophète Ézéchiel. Et puis enfin, en 586, une troisième déportation, alors qu'il sonne le glas de Juda et de Jérusalem, qui est alors totalement défaite. Et là, un homme de Dieu, un prophète remarquable, qui va échapper de très très peu à la déportation, in extremis, parce que Dieu est le Dieu fidèle à ses promesses. Il s'agit du prophète Jérémie. Nous avons ensuite essayé, tant soit peu, d'accompagner le jeune Daniel et ses compagnons dans leur voyage très pénible, près de 1200 kilomètres à pied, dans des circonstances extrêmement difficiles, en tant que captifs, des jeunes gens arrachés à leur famille, à leur patrie, à leur berceau, à toute leur éducation, et qui vont se retrouver au bout d'un long voyage devant Babylone la Grande. Oh, elle n'est pas encore la Grande avec un G majuscule. Certes, Nabopolassar y a déjà effectué de grands travaux, mais le père n'arrive pas à la cheville du fils. Nebuchadnezzar va lui se lancer dans un immense programme prestigieux de construction d'édifices absolument extraordinaires. Et nous avons vu ensemble hier soir comment les historiens profanes, les prophètes bibliques, mais aussi ce qu'on appelle le cri des pierres, selon le mot du Seigneur Jésus lui-même, c'est-à-dire l'archéologie, qui a démarré à peu près au milieu du siècle dernier, et je le dis entre parenthèses, il est intéressant de constater que les grandes découvertes, les premières grandes découvertes archéologiques, coïncidaient avec la naissance de certaines des plus grandes sectes d'origine chrétienne. Je veux parler des témoins de Jéhovah, je veux parler des mormons et d'autres mouvements qui sont nés pratiquement à la même époque, comme des champignons microscopiques qui se développaient sur la moisissure, en quelque sorte, d'une église qui, dans certains domaines, n'était pas très fidèle. Et c'est souvent comme ça avec les mouvements sectaires. Et puis à la même époque, au siècle dernier, se développait ce qu'on appelle une théologie moderniste, libérale, ce qu'on appelle la théorie de la haute critique, qui consistait, pour un certain nombre de prétendus hommes de Dieu, théologiens, techniciens de la Bible, à considérer que la Bible était un tissu de mythes, qu'elle avait dans les textes de l'Ancien Testament, pour ne parler que d'eux, des origines extrêmement diverses, des sources. C'est alors qu'est née la fameuse théorie des sources qui fleurit encore actuellement, fortement, y compris dans la théologie catholique qui s'est imprégnée de ces concepts protestants. Tout cela est né au siècle dernier. Et à ce moment-là, Dieu, dans sa souveraineté, avait une riposte, si l'on veut, toute prête. C'était le cri des pierres. Et l'archéologie est venue apporter des démentis cinglants à toutes les absurdités, toutes les accusations mensongères, calomniatrices, venant notamment de ces théologiens modernistes qui ont tout fait à cette époque et depuis pour détruire le message de la Bible. Nous pourrions prendre beaucoup d'exemples pour montrer les dégâts qu'ils ont faits, mais aussi la manière dont Dieu a su répondre par le biais de l'archéologie. Et vous avez remarqué, pour vous qui étiez là hier soir, la place de l'archéologie et de l'histoire dans ce que nous avons partagé sur cette cité prestigieuse, sur la Babylone de cette époque. Cité, premièrement, orgueilleuse. Orgueilleuse d'une taille absolument impressionnante. Nous avons évoqué les descriptions d'Hérodote, qui sans doute est allé un petit peu loin dans ce domaine, mais tous les historiens qui ont traité de Babylone se rejoignent pour souligner son gigantisme, ses immenses richesses, et les prophètes bibliques vont dans le même sens, la cité d'or, la reine des royaumes, une coupe d'or dans la main de l'Éternel, et ce verdict résumé dans cette parole du prophète Jérémie, « Voici, j'en veux à toi, orgueilleuse, dit le Seigneur. » Deuxième caractéristique, capitale, Babylone, de l'occultisme mondial, berceau de l'occultisme mondial, avant d'en devenir la capitale. Ces nombreuses, très nombreuses tablettes d'argile, couverte de cette écriture cunéiforme, cette écriture particulière en coin, et révélant la place importante de l'astrologie, la sorcellerie, la divination, la magie, l'alchimie, les formules tout à fait bizarres, tout ce monde de l'occultisme. Et puis enfin, troisièmement, Babylone, une cité violente et corrompue, un peuple sanguinaire, un peuple impitoyable, un peuple divinisant sa force, l'érigeant en vertu capitale, appelé par le prophète Jérémie le marteau de toute la terre, le même prophète disant « C'est un pays d'idoles, ils sont fous de leurs idoles ». Et dans cette idolâtrie figurent les nombreux autels, les nombreux temples dédiés à l'Ishtar, l'Astarté babylonienne, qui bien sûr réclamait des corps d'hommes, ces prostituées sacrées, se livrant donc à tous les exercices de sexualité déviée, contre nature, pour plaire à la divinité. Et puis enfin, nous en sommes arrivés hier soir à notre conclusion, en disant simplement que la situation des quatre jeunes gens n'était pas aisée. Les voilà arrivant à Babylone, confrontés avec le rouleau compresseur babylonien. On va leur imposer des noms païens, une sorte de naturalisation forcée, des tentatives pour modifier en quelque sorte leur personnalité, leur comportement, leur identité, leur conception religieuse, spirituelle. Ils vont devoir, ces quatre jeunes gens, étudier les matières enseignées à l'École nationale d'administration de Babylone pour devenir ces hauts fonctionnaires. Et nous avons remarqué que parmi les matières principales figuraient l'astrologie, les arts occultes, ce qui devait poser de terribles problèmes de conscience à nos quatre jeunes gens. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Et puis leur patron important, celui devant lequel ils passeront leur examen final pour être soit recalé ou reçu, c'est Nebuchadnezzar en personne, un dictateur qui, comme tous ceux de son époque et finalement comme tous les grands potentats de tous les temps, est célèbre par sa cruauté, homme qui fait trembler le monde, homme qui condamne à mort d'un seul regard celui qui ne lui plaît pas par le moindre détail de son comportement. Situation donc difficile, très difficile, dans un monde, comme nous allons le voir, ressemblant étrangement à celui d'aujourd'hui. Choisir Dieu dans un monde moderne. Dans un monde moderne. Parce que, bien entendu, la question qui se posait hier soir à la fin d'une heure et demie d'études sur la Babylone ancienne était celle-ci, mais qu'est-ce que cela a à voir avec notre monde moderne? Tout d'abord, une première constatation, et ce n'est pas la moindre. L'ancienne Babylone, Babylone la grande de cette époque, a été détruite. Elle l'a été, comme le prophète Jérémie l'avait clairement annoncé. Nous allons lire rapidement dans Jérémie, précisément dans cette fresque impressionnante des derniers chapitres 50 et 51 de Jérémie. Nous lisons simplement ici et là quelques versets, par exemple dans Jérémie 50, les versets qui introduisent cette fresque sur le présent et l'avenir de Babylone. Jérémie 50, verset 1er suivant, la parole que l'Éternel prononça sur Babylone, sur le pays des Chaldéens, par Jérémie le prophète. Annoncez-le parmi les nations, publiez-le, élevez une bannière, publiez-le, ne cachez rien. Dites, Babylone est prise, Bel est confondue, Merodac est brisé, ses idoles sont confondues, ses idoles sont brisées, car une nation monte contre elle du septentrion du nord. Elle réduira son pays en désert. Il n'y aura plus d'habitants. Hommes et bêtes fuient, s'en vont. Soulignons qu'au moment où le prophète Jérémie prononce ces paroles, Babylone est au sommet de sa splendeur. C'est comme si aujourd'hui, au cœur d'une des gigantesques mégalopolis, métropoles de notre monde moderne, que ce soit Paris, que ce soit Tokyo, Mexico, Le Caire ou d'autres, un prophète se levait en annonçant que, sans que cela tarde trop, la cité immense dans laquelle il est en train de parler aura totalement disparu de la carte. C'était ça le message prophétique. Vous imaginez ce que cela représentait comme obéissance, comme courage de la part de ces prophètes inspirés par Dieu comme Jérémie. Si vous allez un peu plus loin, en versets 12 et 13, Jérémie se répète, votre mère, Babylone, votre mère est couverte de confusion. Celle qui vous a enfanté rougit de honte. Voici, elle est la dernière des nations. Celle qui était appelée la première des nations, la voici subitement devenue la dernière des nations. C'est un désert, une terre sèche et aride. Celle qui était appelée la région la plus fertile de l'Antiquité. Nous avons cité Hérodote qui considérait que la région de Babylone était la région la plus fertile de l'Antiquité. Et la voici donc, d'après Jérémie, devenue un désert, une terre sèche et aride, à cause de la colère de l'Éternel, elle ne sera plus habitée. Elle ne sera plus qu'une solitude. Tous ceux qui passeront près de Babylone seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies. Si nous allons un peu plus loin, versets 39 et 40, c'est pourquoi les animaux du désert s'y établiront avec les chacals. Les autruches y feront leur demeure. Elle ne sera plus jamais habitée. Elle ne sera plus jamais peuplée, comme Sodome et Gomorre et les villes voisines que Dieu détruisit, dit l'Éternel. Elle ne sera plus habitée, elle ne sera le séjour d'aucun homme. Vous remarquez l'insistance du prophète. La nouvelle est tellement révolutionnaire, tellement extraordinaire, tellement incroyable à l'époque où Jérémie se prononce, que l'Éternel en quelque sorte martèle sa conscience, son cœur, son esprit, ses pensées, pour qu'il se répète et répète et répète encore. Et alors que Babylone est le marteau de toute la terre, maintenant c'est Jérémie qui devient le marteau de Dieu pour enfoncer une vérité dans le cœur de ceux qui veulent bien l'entendre, à commencer par Judas, qui vit sous le marteau de l'oppresseur. Au chapitre 51, vous avez également toute une série de versets, chapitre 51, toujours de Jérémie, au verset 37, par exemple, « Babylone sera un monceau de ruines, un repaire de chacals, un objet de désolation et de moquerie. Il n'y aura plus d'habitants. » Si vous allez au verset 53, « Quand Babylone s'élèverait jusqu'aux cieux, quand elle rendrait inaccessibles ses hautes forteresses, et je vous ai parlé des hautes forteresses impressionnantes de ces murailles, très élevées, très larges, très épaisses, où l'on dit que jusqu'à deux chariots attelés, chacun d'au moins quatre chevaux, pouvaient circuler de front, n'est-ce pas? Eh bien, qu'est-il dit? Quand elle rendrait inaccessibles ses hautes forteresses, j'enverrai contre elle les dévastateurs, dit l'Éternel. Et au verset 58, ainsi parle l'Éternel des armées, les larges murailles de Babylone seront renversées, ses hautes portes seront brûlées par le feu, ainsi les peuples auront travaillé en vain, les nations se seront fatiguées pour le feu. Et déjà Ésaïe, bien avant, vers la fin du 8e siècle, avant Jésus-Christ, avait déjà annoncé dans Ésaïe 13, versets 19 à 22, « Et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens sera comme Sodome et Gomorre que Dieu détruisit. Elle ne sera plus jamais habitée. Elle ne sera plus jamais peuplée. » J'ai relu aujourd'hui un certain nombre de déclarations de chroniqueurs, d'archéologues, d'historiens du passé, en particulier de chefs d'expédition, de responsables de programmes d'archéologie dans cette région, comme par exemple le célèbre André Parot, qui a été un de nos plus prestigieux archéologues, qui a beaucoup travaillé pendant des décennies dans toute cette région, et lui-même affirme de manière extrêmement forte un certain nombre de vérités dans ce domaine. Il souligne bien le désarroi premier quand on arrive dans cette région de Babylone, à peu près à une centaine de kilomètres au sud de Bagdad, cet immense champ de ruines en beaucoup plus mauvais état, d'ailleurs, que d'autres sites archéologiques. Il y a quelques semaines, mon épouse et moi, nous avons visité des sites archéologiques très célèbres, au Liban et en Syrie en particulier, et ces sites archéologiques sont mieux conservés, tout en étant beaucoup moins importants que ce site prestigieux qu'était la fameuse Grande Babylone. Et le choc de ceux qui arrivent dans cette région de Babylone, c'est précisément de ne voir que des ruines en état de délabrement absolument incroyable. Il y a un tout petit village actuellement qui est situé à quelques kilomètres du tel, de l'ensemble des tels, de ces collines archéologiques du site de Babylone. C'est un petit village arabe qui s'appelle Babel, mais qui n'a absolument rien à voir avec le site de la véritable Babylone. Vous savez peut-être, vous l'avez peut-être appris à la lumière de la tragique guerre du Golfe, Saddam Hussein, voulant perpétuer l'empire babylonien avec ses principaux potentats et dictateurs, a voulu et a commencé à travailler à la reconstruction, a fait faire de grands travaux de reconstruction de murailles sur le site de Babylone, avec, il est vrai, l'argent d'organisations internationales dont l'UNESCO, mais tout cela a été arrêté par la guerre du Golfe. Je crois que là aussi, certainement, Dieu est fidèle à sa parole. Et si la Bible dit que ce site ne sera pas reconstruit, si c'est dans son plan, il ne sera pas reconstruit. Et tous les efforts qui ont pu être faits, n'est-ce pas, ont été jusqu'ici voués à l'échec. J'ai relevé aujourd'hui un exemple très intéressant d'un colonel turc incrédule qui discutait un jour avec un croyant britannique, le docteur Cyrus Hamlin, et qui lui rapporta que s'étant trouvé dans la région de Babylone où il chassait, accompagné de ses serviteurs arabes, il avait voulu passer la nuit sur l'emplacement de l'antique cité, donc de Babylone. Et à sa grande surprise, les Arabes avaient catégoriquement refusé de demeurer là après le coucher du soleil, affirmant que dès qu'il fait sombre, des fantômes et des revenants sortent de leur repère et entraînent avec eux les humains imprudents qui se trouvent là. Et le docteur Hamlin tire sa Bible de sa poche et prouve à son interlocuteur que cela avait été annoncé des temps et des temps auparavant par le prophète Ésaïe dans ses mots d'Ésaïe 13:20. L'Arabe n'y dressera point sa tente et les bergers n'y parqueront point leurs troupeaux. Voilà une petite anecdote et il semble qu'elle soit tout à fait certifiée. Ce n'est pas une quelconque invention, mais qui va tout à fait dans le sens de nos déclarations. Donc l'ancienne Babylone a été détruite. Dieu a jugé son orgueil. Dieu a jugé son occultisme. Dieu a jugé sa violence et sa corruption. Mais l'esprit de Babylone n'a pas cessé pour autant. Et l'esprit de Babylone s'est perpétué au fil des siècles. Il est intéressant de constater que Babylone est présent, je dirais presque à l'aube de l'histoire de l'humanité, en tout cas après le déluge, bien entendu, au début de l'histoire biblique, nous l'avons vu, Genèse 10 et 11. Elle est présente au cœur du message de l'Ancien Testament, très fortement, nous l'étudions en ce moment. Et puis, elle se retrouve, nous en avons lu un extrait, présente à la fin de la Bible. Au début, au milieu, à la fin. Là aussi, comme pour souligner l'importance du message concernant Babylone. Et l'esprit de Babylone s'est perpétué au fil des siècles jusqu'à nos jours. Et nous pouvons dire en quelque sorte que notre civilisation entière épouse actuellement tout particulièrement et de plus en plus les traits de la Babylone antique. Et nous aurions pu, ce soir, nous pencher sur ces deux chapitres qui sont sur la fin de l'Apocalypse, les chapitres 17 et 18, et qui donc nous offrent une description apocalyptique de Babylone la Grande, qui correspond étrangement aux caractéristiques de notre époque. Avec tout d'abord au chapitre 17, mais nous n'allons pas entrer dans les détails ici, au chapitre 17, une description de la puissance religieuse je dirais, une sorte de pseudo-christianisme, de chrétienté apostate, prostituée, qui va pour un temps même dominer, s'agglomérer, mais dominer et influencer le pouvoir politique, la fausse religion, la grande prostituée dont l'infidélité, l'esprit de lucre et la soif de domination seront finalement d'ailleurs démasqués et jugés. Le Seigneur interviendra. Et puis au chapitre 18, nous avons également la grande Babylone de la fin des temps, mais présentée comme le système politico-commercial, la grande puissance économique de la fin des temps, qui va s'écrouler en un rien de temps. Et là, vous pourrez lire vous-même dans ces deux chapitres certains aspects que je ne voudrais que souligner au passage, mais ils sont très importants. Par exemple, ce qu'on appelle le mercantilisme, les marchands de la terre. Il est question, dans le chapitre 18, des marchands de la terre qui se sont enrichis par elle, par la grande Babylone. Je vous disais hier soir, j'ai relu des textes très intéressants aujourd'hui sur la puissance économique de Babylone. À l'époque de Daniel, nous avons parlé hier de son système de banque, la manière même dont les Juifs qui ont été exilés mais qui sont restés en Babylonie ont appris à devenir des banquiers et des marchands. C'est à Babylone qu'ils l'ont appris en réalité, n'est-ce pas? Et il est intéressant de constater que dans la Babylone de la fin des temps, on retrouve cette dimension des banques, du marchandage, de la puissance industrielle, tous les trafics, tous ceux qui ont des navires sur la mer. Bien sûr que le trafic par voie de mer était extrêmement important à l'époque où les textes de l'Apocalypse étaient écrits, mais cela fait penser aujourd'hui à tous les trafics qui existent dans le domaine du commerce, de l'industrie, les grands trafics d'armes, mais aussi les trafics de drogue, les trafics concernant l'or noir et les autres ors de toutes les couleurs possibles et imaginables. Nous pourrions évoquer le confort, le luxe, l'orgueil démesuré. Dans Apocalypse 18, verset 7, il est dit que cette grande Babylone de la fin du temps s'est glorifiée, elle s'est plongée dans le luxe. Faut-il évoquer ce soir la société de consommation, la société de gaspillage, les richesses accumulées par un certain nombre relativement petit, alors qu'une grande partie de notre planète vit un désespoir, n'est-ce pas, de famine et d'autres drames? Nous pourrions évoquer la dépravation des mœurs, parce qu'alors là, dans le chapitre 17, verset 2 et 18, verset 3 et 9, il est dit, c'est du vin de son impudicité, de sa pornographie, que les habitants de la terre se sont enivrés. Parler de la liberté sexuelle totale, j'allais dire dès l'adolescence, mais maintenant dès l'enfance, liberté, que dis-je, l'asservissement total à cette divinité féroce qui vous réclame tout entier, qu'est la sexualité aujourd'hui, l'homosexualité non seulement admise, mais de plus en plus encouragée, toutes les formes de pornographie, etc. L'occultisme, qui est indiqué aussi au chapitre 18, verset 2, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur. Alors là, cela fleurit, n'est-ce pas, tragiquement. Ce sont des couronnes mortuaires absolument partout dans le monde. Je ne vais pas vous abreuver de toutes sortes de statistiques, ça ne sert absolument à rien. La violence, chapitre 17, verset 6, elle est ivre du sang des saints et des témoins de Jésus-Christ, et nous savons que s'il y a eu un ralentissement évident de la persécution des authentiques croyants dans les pays autrefois derrière le rideau de fer, d'une part, la persécution n'a pas cessé dans un certain nombre de grandes nations de ce monde, à commencer par la Chine, mais qu'aussi on voit à nouveau dans ces pays de l'Est la persécution commencer à reprendre le dessus. Le problème est loin d'avoir été éradiqué, bien au contraire, et il semble qu'on aille à nouveau vers des temps très difficiles, pas très loin de nous. Et je dois le dire très simplement, je crois que cette persécution se rapproche très très vite maintenant de nos pays post-chrétiens. Tout simplement parce que de plus en plus, dans nos lois, votées année après année, jour après jour, semaine après semaine, de plus en plus, un plus grand nombre de ces lois sont des lois iniques qui ne sont plus du tout en accord, mais en porte-à-faux continu avec la parole de Dieu. Et puis alors vous avez au chapitre 18 de l'Apocalypse une liste impressionnante d'une trentaine de matières, entre guillemets, qui sont au cœur de toutes les grandes transactions de la Babylone de la fin des temps. Et il est intéressant de constater que dans cette trentaine de matières, entre guillemets, la première de ces matières, c'est l'or. L'or, dont vous le savez, occupe une place tellement importante, restant le métal étalon, encore aujourd'hui, très très important dans la mentalité de notre temps. Mais ce qui est très inquiétant, c'est de voir dans cette liste la conclusion, les derniers éléments qui s'appellent achat de corps et d'âme d'homme. Et je dirais que ce qui pouvait apparaître quelque peu opaque, hermétique, difficile à saisir à certaines époques, devient très clair aujourd'hui. Quand on évoque aujourd'hui tous les travaux forcés dans les camps d'extermination, de concentration, de déportation, l'esclavage dans les pays producteurs de pétrole, le proxénétisme, la traite des blanches, toutes les formes de lavage de cerveau, toutes les manipulations génétiques, le clonage, l'euthanasie, les otages, les boucliers humains, l'avortement, tout cela s'inscrit de manière tout à fait aisée, sans forcer le texte, dans cette petite expression tellement terrible, achat de corps et d'âme d'homme. Ça, c'est la Babylone moderne. Et quelqu'un me le disait hier soir. Combien elle ressemble à la Babylone de l'époque de Daniel. J'ai sous les yeux une reproduction en miniature d'une affiche réalisée par le Conseil de l'Europe qui présente au ciel une couronne d'étoiles à 5 branches qui symbolisait les 12 États liés entre eux par le traité de Rome. Alors maintenant, je pense que cette affiche a dû être modifiée puisque des étoiles, on en voit fleurir de plus en plus. Au centre, une tour en train de s'élever, et il se trouve que cette tour est une copie quasi conforme du célèbre tableau « La construction de la tour de Babel » par l'un des maîtres de l'ancienne école flamande Bruegel, avec un seul détail qui actualise le sujet, c'est une grande grue en action au troisième niveau de l'édifice. Mais c'est une érection, là, d'une tour de Babel de notre temps, avec au premier plan une foule disparate, et un slogan mis en évidence dans un encart, Europe, plusieurs langues, une voix. C'est intéressant de voir là aussi l'actualisation, le message prophétique des prophètes malgré eux, que sont les principaux architectes de notre nouveau système européen. Combien ils rejoignent, sans le vouloir, cette Babylone des temps anciens. Faut-il souligner que, de la même manière que la grande Babylone de l'époque de Daniel, a été rayée de la carte. Cela ne s'est pas fait tout de suite. Elle est allée peu à peu sur son déclin et on considère que pratiquement à partir de l'an 300 à peu près avant Jésus-Christ, elle était quasi rayée de la carte. Jusque-là, il y a eu quelques soubresauts, mais elle s'est éteinte peu à peu. Elle a disparu peu à peu. Son rayonnement a diminué peu à peu jusqu'au 3e siècle en tout cas avant Jésus-Christ. De la même manière que cette Babylone-là a été rayée de la carte, ce qui apparaissait comme absolument incroyable, vu son gigantisme, vu sa puissance, vu ses réalisations, etc. De la même manière, ce qui peut paraître incroyable à l'homme moderne, ce qui peut lui faire dire « mais Dieu divague », s'accomplira. Ce que Dieu a fait en relation avec les grandes civilisations et les empires qui se sont éteints l'un après l'autre, lorsqu'ils se sont de plus en plus enfoncés dans toutes sortes de péchés qui les ont fragilisés, Dieu va le faire. Dieu va le faire. Et Dieu va le faire en un instant. Très peu de temps. C'est intéressant de voir, nous l'avons lu dans Apocalypse 18. En un rien de temps, ce grand système mondial va s'écrouler. Et nous savons, nous qui sommes à la fois proches du Seigneur et sensibles, qui nous intéressons véritablement en tant qu'enfants de Dieu responsables à ce qui se passe dans le monde, qui ne nous bouchons pas les yeux ni les oreilles, qui voulons être des disciples de Christ responsables, nous savons combien le monde dans lequel nous vivons est un monde fragile. Combien tout peut basculer en un instant. Il suffirait que l'un des grands possesseurs, et ils sont peu nombreux, des grands possesseurs des richesses de notre planète, se décide à faire un coup en bourse pour que tout notre système s'écroule. Nous en sommes arrivés là aujourd'hui. Il n'y a guère que Dieu et Dieu seul qui contrôle ce qui pourrait, en un rien de temps, faire basculer tout notre système économique dans le chaos. C'est un miracle que de voir comment Dieu a sa main sur ceux chez lesquels démange l'idée de bousculer le système. Mais un jour, et nous croyons que ce système et ce moment est très proche maintenant, tout ce système va s'effondrer littéralement, comme un immeuble de 10 étages s'effondre sur lui-même lors d'un séisme. Dans ce monde inquiétant, et combien inquiétant pour nous en ce moment, sur un plan strictement humain, dans notre pays de France. Dans ce monde inquiétant, une équipe de croyants. Une équipe de croyants que nous appelons et que Dieu appelle l'Église. L'Église, en nombre dans Daniel au chapitre 1er. Parce qu'il y a des similitudes qui sont frappantes entre la petite équipe constituée notamment par Daniel, Hanania, Michaël et Azaria et l'Église d'aujourd'hui. Tout d'abord parce que Daniel et ses compagnons sont des hommes de race royale, de famille noble. Et ça, c'est vous et moi, dans la mesure où nous connaissons Jésus-Christ personnellement. Nous sommes, en tant que disciples de Jésus-Christ, c'est là notre honneur, c'est là notre privilège, c'est là notre éminente responsabilité. Nous sommes de race royale. Parce que nous sommes nés de Dieu par la nouvelle naissance. Nous sommes renés comme le prénom. Nous sommes un sacerdoce royal, dira l'apôtre Pierre. Nous sommes un peuple d'ambassadeurs, dira l'apôtre Paul. Des fils et des filles du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Ces jeunes gens, prisonniers, déracinés, si peu nombreux, cette petite équipe au cœur de cette immense cité en plein développement, cette petite équipe annonçait l'Église. Déjà à cause de leur statut. Deuxièmement, ces jeunes gens, ce sont des exilés. Ce sont des déracinés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils franchissent la frontière de cet empire babylonien, à partir du moment où ils pénètrent dans cette capitale extraordinaire, où ils s'installent dans leur nouveau mur, ils deviennent des déracinés, des étrangers et voyageurs sur la terre. Littéralement, comme le dit le Nouveau Testament, par exemple, dans l'Épître aux Philippiens, ou dans 1 Pierre 2,11, des résidents temporaires, des hommes en séjour à l'étranger, étrangers et voyageurs sur la terre. Nous n'avons point ici-bas de cité permanente, dira le rédacteur anonyme de l'Épître aux Hébreux. Ce sont eux, puis c'est tout. Je me considère ce soir, en tant qu'enfant de Dieu, comme un résident temporaire sur la terre. Je suis un exilé. Ma patrie est ailleurs. Mes véritables richesses sont ailleurs. Et comme nous le verrons, essentiellement au mois de mars, je suis, c'est vrai, dans la grande Babylone de mon temps. Mais je ne suis pas de la grande Babylone. Ça, c'est ce que pouvait se dire et ce que devait se dire en permanence le jeune Daniel et ses compagnons. Alors que ce monde babylonien faisait terriblement pression sur eux. En quelque sorte, dans cette présence du jeune Daniel et de ses compagnons, dans la grande Babylone, il y avait une sorte à la fois de confrontation et de pénétration. De confrontation entre la Babylone, dominée par la puissance des ténèbres, mais comme nous le verrons, sous le contrôle de Dieu, et puis Jérusalem, la Jérusalem en quelque sorte céleste, l'assemblée, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, l'assemblée des premiers nés inscrits dans les cieux. Daniel et ses compagnons étaient la Jérusalem céleste, déjà une annonce, une anticipation de l'épouse de l'agneau. Dans le système de la grande Babylone. Et c'est ça, finalement, à la fois le drame et le défi de toute notre histoire. Nous sommes, en tant qu'Église de Jésus-Christ, une sorte de portion de cette Jérusalem céleste, de cette fiancée qui va devenir épouse, épouse de l'agneau, par les noces de l'agneau, et qui à la fois est en antagonisme, en confrontation avec la Babylone de notre temps, et qui en même temps se doit de la pénétrer en tant que celle de la terre et lumière du monde. Combat, en quelque sorte, entre Babylone et Jérusalem. Nous pourrions ajouter que L'identité de ces quatre jeunes gens est tout un programme. Ce n'est pas pour rien qu'il est question de leur changement de nom, que leurs noms nous sont donnés, d'ailleurs un certain nombre de fois, et nous verrons que même le fait qu'ils soient nommés ensemble un certain nombre de fois a tout un sens, que nous étudierons alors beaucoup plus tard. Les noms de Daniel et de ses compagnons sont très gênants pour le système babylonien. Tout d'abord, Daniel. Daniel qui signifie « Dieu est mon juge ». Daniel qui, dans la signification de son nom, est menaçant, est un avertissement à l'endroit de ce peuple idolâtre, de ce peuple très superstitieux, qui voulait absolument avoir la faveur des divinités. Voilà que Daniel arrive et met les pieds dans le plat. Mon nom, c'est Dieu est mon juge. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et ce message doit faire partie de notre évangélisation. Nous devons dire, comme Jonas a dû le faire jadis à Ninive, que le jugement de Dieu est à la porte. C'est solennel. Que notre Dieu, c'est vrai, est le Dieu d'amour, et nous parlerons de ce Dieu d'amour, mais c'est aussi le Dieu qui juge. C'est aussi le Dieu, même aujourd'hui, le Dieu qui se met en colère. C'est vrai que sur le Sinaï, Dieu va dire à Moïse, en lui révélant la gloire de sa grâce, la beauté de sa générosité, de son cœur plein d'amour, il va se présenter comme le Dieu lent à la colère. C'est vrai. Mais en même temps, il est vrai que s'il est lent à la colère, cela ne veut pas dire qu'il ne se mette jamais en colère. Rien que dans l'Ancien Testament, il y a dans le texte hébreu plus de 20 termes différents pour désigner la colère de Dieu. Et cette colère de Dieu est présente dans environ 600 passages importants de l'Ancien Testament. Et elle est très suggestive, puisque fréquemment, le terme le plus courant dérive d'une expression littéralement qui signifie que son nez, le nez de Dieu s'enflamme. Bien sûr, il était difficile de traduire de cette manière. Est-ce que ce serait de là que viendrait l'expression « la moutarde qui monte au nez » On se le demande. Mais il est question de la colère de Dieu très fréquemment dans le Nouveau Testament aussi. Parce que le Dieu de la Nouvelle Alliance n'est pas différent du Dieu de l'Ancienne Alliance. Et j'ai relevé dans le Nouveau Testament 36 mentions très claires de la colère de Dieu avec deux mots principaux. 8 fois un mot traduit par fureur, la fureur de Dieu. Et ce terme traduit par fureur vient d'une racine qui signifie se précipiter, s'échauffer, respirer violemment. On pourrait le traduire par l'expression une rage haletante. Il est présent dans l'Épître aux Romains. L'apôtre Paul l'a utilisé pour s'adresser aux Romains qui vivaient une situation déjà étrangement ressemblante à celle de la grande Babylone. Il est aussi présent 7 fois dans le livre de l'Apocalypse. Il est question du caractère violent de la colère. Et puis vous avez un autre terme, plus fréquent, 28 fois, un autre terme grec qui provient d'une racine qui exprime l'idée de devenir mûr pour. C'est-à-dire l'idée d'une colère qui a couvé longtemps avant d'éclater. c'est une sorte d'opposition croissante de Dieu contre le péché. Mais une opposition qui est freinée par la patience de Dieu. Ce Dieu qui ne veut pas que les gens périssent, qu'il veut qu'ils viennent à la repentance, qui attend encore, mais pendant le temps de son attente, sa colère mûrit peu à peu. Et nous n'avons pas le droit de passer à côté de ce thème de la colère de Dieu sous prétexte que c'est un thème très impopulaire. La mort de Jésus-Christ sur la croix, le sacrifice de Jésus-Christ, l'amour de Dieu allant jusqu'au sacrifice de son Fils, Jésus-Christ, ne doivent pas nous empêcher d'évoquer la colère de Dieu, expression de son amour, et en particulier expression de son amour pour la justice. C'est parce que Dieu aime la justice qu'il ne peut qu'être en colère. Et là où la colère des hommes vise la destruction, la colère de Dieu vise la punition, le châtiment. Là où la colère des hommes les domine, la colère de Dieu est parfaitement contrôlée par notre Dieu. Là où la colère des hommes est prompte à s'enflammer, lente à s'éteindre, la colère de Dieu est lente à s'enflammer, et Dieu désire toujours de tout son cœur pardonner. Dieu est mon juge. Message gênant, mais message absolument nécessaire. Et ça, cela fait partie de la vocation de l'Église. Dieu est mon juge. Hanania, l'Éternel fait grâce. L'Éternel fait grâce. Il est un moyen d'échapper à la colère de Dieu. L'Éternel est plein de grâce. Il est possible d'échapper à la condamnation au jugement de Dieu. Car l'amour et la justice de Dieu se sont embrassés, ont collaboré, se sont unis pour pourvoir à notre salut. Et elles se sont rencontrées de manière éminente et parfaite dans l'incarnation, dans la venue de Jésus-Christ au milieu des hommes. Et d'une manière toute particulière dans ses souffrances et dans sa mort expiatoire, substitutive, où Jésus-Christ s'est substitué en quelque sorte à l'homme sur lequel devait tomber la condamnation de Dieu. Alors c'est beau, n'est-ce pas, de voir cette Anania qui, à côté de Daniel, faisant équipe avec lui, peut proclamer par son nom, vous savez, habitants de Babylone, l'Éternel est celui qui fait grâce. L'Éternel est un Dieu généreux. C'est vrai, il est le Dieu qui juge. Mais c'est aussi le Dieu, et nous le disons aujourd'hui, en voyant le sacrifice de Jésus-Christ dans le passé, là où Hanania pouvait en quelque sorte anticiper, annoncer, entrevoir, comme tant d'autres avant lui l'avaient fait, le sacrifice futur de Jésus-Christ. Il pouvait annoncer qu'un jour, en quelque sorte, Dieu viendrait dans son Fils Jésus-Christ pour que le péché des hommes soit porté sur la croix, cloué à la croix, soit effacé et qu'une nouvelle nature leur soit communiquée. Puis vous avez Michaël qui est comme Dieu, qui est comme Dieu. Comme si Michaël voulait dire en quelque sorte, aujourd'hui, aux habitants de la Grande Babylone, se donner à ce Dieu-là, se donner à Jésus-Christ, recevoir une nouvelle nature, c'est croître à la ressemblance de ce Dieu. C'est devenir dans notre caractère, dans notre personnalité, dans notre manière d'être, de penser, d'agir, de nous comporter, de travailler, de dormir, de vivre, de chanter, de vivre nos loisirs, etc., c'est de plus en plus être transformé à la ressemblance de ce Dieu tel qu'il s'est rendu visible dans la personne de son Fils Jésus-Christ. Voilà le message que notre ami Michael pouvait en quelque sorte annoncer. Et puis arrive Azariah, le Lazare exactement de l'Ancien Testament, c'est la même racine. Azariah, le Seigneur est mon aide. Et combien cela était important, en quelque sorte, et combien c'est important pour l'Église de Jésus-Christ. Et je résume en quelque sorte le message de l'Église de Jésus-Christ à la grande Babylone de notre temps. Dieu est mon juge, l'Éternel fait grâce, qui est comme Dieu? Et quand on vit cela, quand on proclame ce message, on subit des pressions, on vit des temps extrêmement difficiles, on est attaqué, on connaît la souffrance, la vie du disciple de Jésus-Christ est loin d'être toujours une vie confortable, le cœur est en confort. Mais que de situations difficiles. Alors on a besoin de cette aide, avec un grand A, du Seigneur. Les épreuves ne manquent pas, mais le secours permanent du Seigneur nous est assuré. Le Seigneur est mon aide, je ne crains rien. Que peut me faire un homme? Hébreux chapitre 13, verset 6. Voyez, cette petite équipe, ceux que nous appellerons bientôt les quatre mousquetaires de Dieu, ce GBU de l'université de Babylone, était une petite expression prophétique, une annonce, une sorte de type, une préfiguration, une ombre de l'Église de Jésus-Christ. Race royale, famille noble, des exilés dont le nom lui-même était tout un programme, n'est-ce pas? Vous voyez donc où peu à peu nous allons en venir. Nous allons, ce soir, parce qu'il est déjà assez tard, nous arrêter ici pour considérer, dans notre troisième étude demain matin, l'attitude de ces jeunes gens, mais sur un plan général. Nous n'allons pas encore entrer dans les détails du comportement tout à fait pratique de ces jeunes gens, à commencer par Daniel, leur conducteur, leur meneur, la locomotive. Et nous verrons combien c'est important dans l'Église de Jésus-Christ, les locomotives aujourd'hui, et combien elles manquent, combien il y a pénurie dans ce domaine aujourd'hui, combien il y a démissions dans ce domaine. Il y aura des défis à relever, n'est-ce pas? Mais demain matin, nous allons considérer leur conduite, leur attitude sur un plan général, sans entrer dans les détails, mais pour aussitôt répondre à une question fondamentale qui va nous intéresser à la fois demain matin et demain après-midi. Comment ont-ils été rendus capables d'avoir un tel comportement? Comment cela a-t-il été possible? Et c'est à partir de cette réponse que nous formulerons en partie demain matin et demain après-midi, que nous verrons alors début mars, leur comportement, je dirais au microscope, et que nous en tirerons toutes sortes de leçons extrêmement pratiques, concrètes pour notre quotidien, autour de ce petit mot, choisir Dieu. Qu'est-ce que c'est que choisir Dieu? Quand on est dans cette Babylone de notre temps, à quoi ça correspond? Quel dilemme cela pose? Quels défis sont à relever? Ce sera donc le thème essentiellement de notre second week-end. Nous voulons simplement prier encore. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, ce soir, de nous avoir placé encore une fois dans ce contexte de temps difficile, dans la Babylone de notre temps, étrangement ressemblante à celle découverte par Daniel et ses compagnons. Seigneur, tu nous as rappelé ce soir un message bien solennel, toi qui as jugé sévèrement la Babylone antique, malgré sa somptuosité, malgré sa puissance, ses richesses, ses capacités, tu l'as jugé, et toi qui l'as jugé, tu es aussi celui qui a commencé à juger ce monde moderne. Et nous savons que nous allons de plus en plus vers des jugements de ta part, des jugements que l'homme forge d'ailleurs lui-même de ses propres mains, nous le voyons tous les jours. Mais nous te remercions, Seigneur, d'être en tant qu'Église de Jésus-Christ, en tant que petit noyau, cette noblesse de ton cœur, cette race royale, ce peuple d'ambassadeurs. Seigneur, nous sommes fiers de t'appartenir. C'est un honneur que tu nous fais. C'est une grâce que nous ne comprenons pas. Nous te bénissons d'appartenir à ta fiancée, celle qui va devenir véritablement ton épouse, celle que tu te prépares, à cette Jérusalem d'en haut. Seigneur, merci. Nous nous reconnaissons, Seigneur, comme des exilés, des résidents temporaires. Notre cité à nous est là-haut, d'où nous t'attendons. Et nous te remercions, Seigneur, pour le quadruple message que tu nous invites à partager sur ton jugement personnel sur chaque individu, mais sur cette possibilité extraordinaire offerte à tous d'y échapper, parce que tu es celui qui désire faire grâce à cause de Jésus-Christ, ton Fils. Merci de nous avoir rappelé que tu veux nous transformer à la ressemblance de Jésus-Christ afin que, en quelque sorte, nous devenions comme toi, de plus en plus, dans nos pensées, dans notre caractère, dans nos réactions, dans notre personnalité, dans nos comportements. Et merci enfin pour ton aide, pour le secours du Dieu Tout-Puissant qui ne manque jamais. Merci. Parce que Daniel et ses compagnons ont pu compter sur toi, et de la même manière, nous pouvons nous aussi compter sur toi. Tu veux nous accompagner ce soir dans notre retour. Tu veux continuer à nous visiter, à te frayer par le Saint-Esprit un chemin dans nos cœurs, dans nos consciences, dans nos esprits. Y faire une œuvre à portée éternelle, indélébile, non éphémère. Et tu veux aussi, Seigneur, dans ta grâce, nous préparer à vivre ensemble cette journée de demain. Seigneur, prépare les prochaines étapes de notre partage et vraiment, inscris-le en lettres, en caractères sculptés dans la trame même de notre vie, dans les profondeurs de notre cœur. Inscris cela en nous. Rappelle-le-nous dans les moments où nous en avons particulièrement besoin. Nous t'en bénissons, nous t'en sommes reconnaissants infiniment ce soir, et je te demande de visiter ceux et celles parmi nous qui plus particulièrement ont besoin de ta visitation, de ton rafraîchissement, ou de ta vie d'en haut, de ce pain d'en haut qui vivifie, de ce fleuve d'eau vive. Seigneur, visite-les, continue ton œuvre souveraine en eux jusqu'à ce qu'ils te reconnaissent sans tarder comme leur Dieu personnel, leur Seigneur et leur Sauveur en Jésus-Christ ton Fils. Fais-le, Seigneur. Merci, merci de tout cœur, avec confiance, à cause de tes promesses et dans le nom de Jésus-Christ. Amen.